Bonjour à tous, c'est le carnet nomade et Colette Fellous à la réalisation Vincent Deck. Aujourd'hui, Monet ou l'œil de l'eau. C'est par ces mots que Gaston Bachelard, à la mort de Claude Monet en décembre 1926, le 6 décembre 1926, lui rendit hommage en évoquant cette œuvre majeure que sont les nymphéas, au moment où les 22 panneaux furent transférés à l'orangerie vers la fin du mois de décembre. « Le monde veut être vu », disait Bachelard. Avant qu'il y eût des yeux pour voir, l'œil de l'eau, le grand œil des eaux tranquilles, regardait les fleurs s'épanouir. Et c'est dans ce reflet, qui dira le contraire, que le monde a pris la première conscience de sa beauté. Ce sont des mots qui ressemblent en effet à la fois à l'esprit de Bachelard et à l'intimité du regard de Monet. Et si j'ai décidé de faire le voyage jusqu'à Giverny la semaine dernière, à une époque où les nymphéas avaient replié leurs ailes, c'était pour découvrir non seulement la longue maison verte et rose de Monet, mais bien sûr, ses jardins, son pont japonais, son clos normand, les grands saules pleureurs, l'eau qui chemine, élégante, entre les arbres, comme une mémoire fluide de l'histoire de la peinture. Si j'ai décidé de faire ce voyage, c'est que j'avais envie de comprendre de plus près dans quelle matière, dans quelle couleur, dans quels sentiments, dans quelles inquiétudes, Monet avait peint ici ses plus belles œuvres. Dans ce carnet nomade, je vous inviterai donc à entrer dans les couleurs de Monet entre Giverny et la très belle exposition du Grand Palais à Paris, Claude Monet, 1840-1926, qui est là jusqu'au 24 janvier. Mes guides seront Vincent Noss, qui nous conduira lui dans toute l'exposition et qui vient de publier aux éditions L'Inattendu avec la Réunion des musées nationaux un livre intitulé « Monet, l'œil et l'eau ». Et côté Giverny, tout près des jardiniers qui étaient dans la serre et qui préparaient déjà les travaux d'automne et les travaux d'hiver, Pierre Vatt nous présentera, lui, comme dans son roman « Les nymphéas la nuit », publié aux éditions Scala, un Monet vieillissant, se faisant un pays tout entier dans sa maison et son jardin. En exergue de ce carnet nomade, voici un extrait du journal de Julie Manet, ce qu'elle notait le 30 octobre 1893 après avoir rendu visite à Claude Monet, à Giverny. La maison a changé depuis la dernière fois que nous sommes allés à Giverny. Monsieur Monet s'est fait faire une chambre par-dessus l'atelier avec de grandes fenêtres, des portes et un parquet en pitch peint, étendu de blanc. Dans cette chambre, beaucoup de tableaux sont accrochés, entre autres Isabelle se peignant, Gabriel à la jatte, Cocotte avec un chapeau, un pastel de maman, un pastel de l'oncle Édouard, une femme nue très jolie de Monsieur Renoir, des Pissarro, etc. La chambre de Madame Monet a des boiseries bleues. Celles de Mesdemoiselles Blanche et Germaine sont violettes. Nous n'avons pas vu la chambre de Mademoiselle Marthe. Mademoiselle Blanche nous a montré des tableaux d'elle qui sont d'une jolie couleur. Deux représentant des arbres se reflétant dans l'Epte et qui ressemblent à la peinture de Monsieur Monet. Le salon est en boiserie violette, beaucoup de gravures japonaises y sont accrochées, ainsi que dans la salle à manger qui est toute jaune. Nous sommes allés sous les peupliers, voir la serre où se trouvent des chrysanthèmes magnifiques, puis la pièce d'eau sur laquelle se trouve un pont vert à l'air japonais. Julie Manet. Carnet nomade, Monet, l'œil de l'eau, première scène dans les jardins de Giverny. Il y a du vent aujourd'hui dans le jardin de Giverny. Et on retrouve en même temps toutes les plantes et les arbres, le feuillage, les grands saules pleureurs, les bambous et toutes les fleurs que Monet a ramenées ici et a plantées lui-même. On a presque envie de les citer. Au fil des saisons, on peut retrouver les jardins de Vivas et mêlés au jardin d'Annuel. Des fleurs simples, des fleurs doubles, des roses, des pivoines. Et puis aussi des soleils, des coquelicots, des pavots d'Islande, des marguerites blanches et jaunes, des giroflées, des juliennes des prés, des digitales, de la mauve, des lavatères, des ancolies. Puis toutes les campanules aussi qu'on retrouve là. Des delphiniums, des asters, des sceaux de Salomon, des nigelles de Damas, des cœurs de Marie. Et là, toute cette petite rivière qui court au milieu des arbres. Puis des pois de senteur, des anémones du Japon, des hortensias, des acanthes. Une grande collection de roses aussi, des gallicas, des centifolias, des albas, des noisettes, des roses de Damas. En buissons, en tiges, en arceaux, dans les arbres, partout. Même des églantines, de grandes églantines. Et puis plus loin, les naphéas. On va aller aux naphéas. C'est au bout de l'allée, là-bas.
Ah, il y a de l'eau, là.
J'imagine que c'est un travail immense que de s'occuper de ce jardin, de ces jardins. Vous qui êtes jardiniers tous les deux, et puis il y a toute une équipe.
Bien sûr, c'est un travail de tous les instants, hein, tous les jours, sans arrêt, à rectifier des choses, à replanter des choses. Oui, on est quand même 8 jardiniers à plein temps à faire ce travail.
Et les arbres qui sont là, toutes les espèces en fait sont des arbres et des espèces qui ont été choisies par Monet.
Alors il y a un espace ombragé avec donc une partie de bambou pour rappeler l'aspect japonisant, mais ce n'est pas un jardin japonais ici, parce qu'il manque le minéral. Et il reste dans la partie du bassin que le hêtre pourpre de l'époque de Monet, et il y avait un certain nombre d'arbres donc, qui entouraient l'étang, le bassin de Nénuphar, qui permet d'avoir des effets de lumière à travers les arbres. Voilà.
Et là, donc, les naphéas, c'est par là, hein, c'est ça.
Les naphéas, donc c'est...
Tout l'espace, bon, là, c'est on voit, fin. C'est la fin, mais on voit quand même. Il y a même ce petit embarcadère où il prenait sa barque.
Oui, où il prenait sa barque et où il peignait souvent son petit banc, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait à la bonne place, devrait être de l'autre côté. Mmh. Et voilà, c'était un de ses endroits préférés, je pense, dans le jardin. Et donc les naphéas, oui, c'est la fin parce que l'étang est trop froid maintenant. C'est vraiment une question de température. Il faut que l'eau soit à un certain degré pour qu'il fleurisse. Là, ça se termine. Ouais. Jusqu'à l'année prochaine.
Pourrions ensemble, Vincent Noce, repartir de cette première salle de l'exposition de Claude Monet et peut-être parcourir avec vous tout le thème que vous avez développé dans votre livre, le thème de l'eau.
Donc l'idée du livre, c'est que Monet était complètement obsédé par l'eau. Et évidemment, il a passé son enfance au Havre. Et dès le départ, il dessine et il peint des cours d'eau, mais surtout la mer, évidemment. Dès l'entrée de l'exposition, on a un mur de marine, c'est-à-dire de paysages de mer. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu une grande mode du paysage de mer qui se vendait très bien et que Monet, d'ailleurs, qui avait aussi besoin de vendre et de vivre, on en a fait énormément. essayé de les présenter avec plus ou moins de succès dans les salons. Alors au départ, sa facture est assez classique. Le paysage se divise en gros en trois. Il y a le ciel, une masse rocheuse, une masse de terre, et la mer qui est une partie plus ou moins importante vers le bas. Et il essaye aussi de faire figurer la transparence sur le sable, qui est plus sombre, ou alors le blanc des vagues.
Oui, on sent vraiment que c'est le début d'une longue, longue recherche autour de ce thème. Et autour, justement, vous parliez du ciel, et c'est vraiment le rapport à l'intérieur du tableau, du ciel et de l'eau.
Alors, Monet a toujours vécu au bord de l'eau. Et c'est quelqu'un qui foncièrement a besoin de ce rapport à la nature, à l'eau, à la mer. Donc il a appris à nager quand il était petit, quand il était au Havre, par exemple. C'est important parce qu'on verra qu'il a connu un incident assez problématique. Il s'est jeté dans la Seine quand il avait la vingtaine parce qu'il n'arrivait pas à gagner d'argent. Parce que Monet a été pauvre extrêmement tard. Il a eu une reconnaissance assez tardivement dans sa vie. Et il avait justement eu un enfant avec une femme avec laquelle il n'était pas marié, qu'il aimait, mais quand même, il était un peu désespéré, il s'est jeté dans la Seine. Évidemment, c'était une bêtise, et comme c'était en été et qu'il savait très bien nager, tout ça n'a pas abouti à grand-chose.
Et s'il avait besoin de la nature, comme vous dites, de se plonger dans la nature, il a aussi besoin de motifs comme le brouillard, la brume.
Oui, alors donc l'obsession pour l'eau, elle se retrouve dans la pluie, elle se retrouve dans le brouillard, qui est une autre forme d'eau, elle se retrouve dans la neige ou la glace, évidemment. Alors la neige lui a toujours posé beaucoup de problèmes, c'est toujours très dur pour lui, parce que c'est très difficile de rendre une surface blanche comme cela. Et là, il y a un magnifique tableau qui est présenté, qui porte le nom, je crois, de la corneille, parce qu'il y a un petit oiseau sur le côté qui est le seul personnage animé là-dedans. Et il y a quand même une beauté dans les nuances, une vibration dans la couverture, dans le manteau neigeux, qui est absolument remarquable. Mais la neige lui posera beaucoup, beaucoup de problèmes. Et finalement, il ira en Norvège à un moment donné, mais il n'y arrivera pas en Norvège. Et finalement, il ira chercher autre chose, qui sont les couleurs du Japon. Donc c'est assez étonnant. En Norvège, il a trouvé les couleurs du Japon. Donc le rose, le bleu, le vert, tendre, etc. Et finalement, à partir de ce kaléidoscope, il va retrouver une idée de la neige, qui est son idée de la neige. Et voilà. Et donc c'est aussi, l'impressionnisme, c'est aussi ça. C'est donner l'impression de quelque chose, le sentiment de quelque chose. C'est une peinture sentimentale.
Oui, quand il dit aussi qu'il ne cherche pas un motif, mais il veut peindre ce qu'il y a entre le motif et lui.
Je pense que Monet cherchait le motif.
Ouais.
Je pense qu'il a dit ça dans une période d'énervement.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'il n'y arrivait pas en Norvège. Ouais. Parce que quand même, son truc, quand il est, par exemple, le long de la Seine, on le voit très bien, c'est de marcher pendant des heures et des heures pour trouver un point de vue. Puis après, ça ne va pas lui plaire, ou bien ça va changer, et donc il va encore marcher pour trouver un autre point de vue, puis un autre point de vue. Et donc c'est quand même quelqu'un qui est constamment, il a fait pareil au bord de la Tamise à Londres, va constamment, notamment au bord de l'eau, pour chercher un point de vue. Au point qu'il va inventer un nouvel atelier, qu'il est quasiment le premier à mettre en pratique, qui est le bateau atelier.
Oui.
Donc il y a dans l'exposition des vues qui sont près d'Argenteuil, où il a vécu à un moment donné, dans lequel on voit très brumeux, d'ailleurs des paysages extrêmement brumeux, et on se dit, mais d'où est-ce qu'il a peint ça? Et il ne pouvait peindre ça que d'un bateau. Et il avait acheté ce bateau atelier, et il l'a gardé toute sa vie, et à chaque fois qu'il a déménagé, il l'a amené partout jusqu'à ses derniers jours.
Oui, c'est très beau d'ailleurs dans votre livre, Vincent Noce, ce thème de l'eau qui va jusqu'au bout de sa vie quand il est vieux, quand il ne voit plus. Et l'eau l'a suivi. On a l'impression qu'il voulait être presque de l'eau.
À la fin, évidemment, l'eau a envahi complètement ses tableaux, mais ça, on voit ça tout à la fin de l'exposition. Alors, il y a quand même un moment de bascule, un premier moment de bascule, si on veut, qui est assez important, qui est la vue de la Grenouillère. Donc la Grenouillère, c'était une espèce de piscine comme il y en a sur la Seine encore aujourd'hui, où les gens, c'était une guinguette en réalité, où les gens pouvaient danser, boire un verre, se baigner. Alors là, il va là-bas avec Renoir. Parce que Renoir peint tout ça de manière assez réaliste.
Et oui, lui, ils ont peint ensemble, en fait.
Voilà, ils ont peint ensemble, côte à côte, et probablement, d'ailleurs, la rivalité entre les deux a dû jouer, l'émulation entre les deux a dû jouer. Et si vous regardez cette toile et que vous vous concentrez sur l'eau, vous vous rendez compte que Monet cherche à jouer sur le reflet. Mais pas le reflet pur, si vous voulez, le reflet exact, tel qu'on peut le trouver dans un miroir, ou sur des plans d'eau qui sont parfaitement calmes. Au contraire, il fragmente le reflet en vaguelettes. Mmh. Alors, en réalité, dans la vie réelle, ces vaguelettes, elles ne sont pas là. C'est une invention. Mmh. Le même endroit, photographié à l'époque, montre qu'il y a très très peu de mouvement. Mais Monet a toujours tendance à accentuer le mouvement sur l'eau. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il peut se distancier du réel. Donc il peut inventer son propre sentiment de l'eau. C'est là, à ce moment-là, en cette année, qu'il a compris que s'il voulait retranscrire les reflets de la lumière sur l'eau, il fallait utiliser des touches qui sont assez longues, en l'occurrence. Après, il peut les raccourcir, ou d'autres peuvent les raccourcir encore, pour en faire des toutes petites touches.
Et évidemment, c'est très étonnant, parce que c'est vraiment très tôt dans l'histoire de la peinture.
Et évidemment, c'est ce qui va devenir la marque de l'impressionnisme. C'est comme ça qu'on va faire de l'impressionnisme, c'est par touches. Et donc, c'est des tableaux, par exemple, si vous les regardez de très près, les vrais tableaux impressionnistes, plus tard, on a l'impression d'une masse assez informe, et c'est pour ça que ça a beaucoup déconcerté les gens. Mmh. Et que les gens étaient choqués. Ils disent, mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout de l'art. Et en réalité, il faut comprendre qu'il faut l'illusion d'optique, il faut se retirer du tableau pour pouvoir voir un effet d'ensemble qui, à ce moment-là, fonctionne. Et c'est à ce moment-là, à la Grenouillère, que Monet a commencé à comprendre cela.
Mmh. Oui, donc l'eau, comme vous dites, c'est vraiment un motif pour se distancier du réel.
Alors, il invente des choses de plus en plus fantaisistes, parfois, comme une vue qui s'appelle la vue de Bennecourt, qui se trouve à Chicago, aux États-Unis, et dans laquelle on voit qu'il met un nuage. Dans le reflet sur l'eau, il y a un nuage. Mais dans le ciel, il n'y a pas de nuage. Donc, on voit bien que l'eau devient son territoire d'exploration. Mmh. C'est là qu'il essaye ce qui va devenir l'impressionnisme. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, même Monet, lui, n'était pas un peintre savant. Hein. Ce n'était pas du tout un peintre intellectuel. Hein.
On sent qu'il se débrouillait, il essayait de se sortir aussi de cette passion des couleurs, des motifs, et qu'en même temps, il y prenait plaisir.
Oui, c'était plus qu'un plaisir, c'était un besoin jubilatoire, un besoin physique, et un besoin désespéré aussi, parce qu'il estimait qu'il n'y arrivait jamais, c'était toujours raté, il fallait toujours recommencer. Et donc, sa création perpétuelle, elle venait aussi de ce sentiment. C'est quelqu'un qui n'a jamais faibli, véritablement. Et à chaque fois, il inventait quelque chose de nouveau. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait la beauté exceptionnelle de cette exposition.
Nous avons eu ici une débâcle terrible, et naturellement, j'ai essayé d'en faire quelque chose. Le 8 janvier 1880, dit Monet. J'ai essayé d'en faire quelque chose de la débâcle.
Il y a eu à l'hiver 1879-1880 un froid terrible. Il a fait moins 25 pendant longtemps et on pouvait marcher sur la Seine. Hein. Et tout d'un coup, la température est remontée. Et donc ces énormes blocs de glace se sont fracassés et la poussée du fleuve les a envoyés le long des courbes, détruisant les maisons au passage, les cabanes. Et ça, c'est venu dans la maison que Monet avait à l'époque à Vétheuil, donc au bord de la Seine, avec un grondement absolument épouvantable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, la température est redescendue, donc les morceaux de glace sont restés bloqués là, sur ce paysage qui s'est soudain immobilisé comme un espèce de paysage lunaire pendant plusieurs semaines. Et donc, lui, il y allait, hein, même par grand froid, par grand gel, même quand il souffrait, il fallait qu'il sorte et qu'il travaille. Hein. Et on voit bien que sur le mur qui est présenté à l'exposition du Grand Palais, qu'il a travaillé ça comme des sculptures. Donc c'est une sculpture sur du liquide, et avec les reflets encore, etc. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est très très beau, c'est que sur ce mur qui présente les différentes études et les différents tableaux qu'il a fait à ce moment-là sur place, vous avez à la fin, sur la droite, des colorations roses. Et si vous regardez bien ces sculptures, ces glaçons, ce ne sont plus des glaçons, ce sont des fleurs.
Mmh, ce sont déjà les nymphéas.
Et c'est déjà l'éclosion des nymphéas. Ouais. Hein, c'est-à-dire que le rêve commence à prendre le pas sur la réalité. Et ça, c'est de nouveau avec l'eau que ça se passe. Mais au fond, toute l'histoire de Monet, c'est de passer de la réalité au rêve. À mon avis, sa vie peut très bien être résumée comme ça.
Se distancier d'abord, puis accéder après à la réalité.
Alors juste à côté, vous avez
un
tableau, vous avez évidemment Impression soleil levant qui se trouve à Marmottan, qu'il faut aller voir, mais vous avez un tableau qui est sur le thème similaire, dans lequel vous avez des barques avec un reflet du soleil. Bon, là c'est le soleil couchant, mais enfin le reflet est toujours le même. Et vous vous rendez compte d'une chose, puisqu'on a dit que Impression soleil levant a fondé l'impressionnisme, ce qui est tout à fait jouable, et on voit bien ce qui compte dans ce tableau, c'est ce reflet, c'est-à-dire ces touches horizontales, hein, assez larges, rouges et jaunes et blanches, qu'il met au milieu, et ce qui fixe l'attention, c'est absolument cela. Et on voit bien donc, c'est de nouveau sur l'eau que Monet peut dérouler ce qu'il a à dire, le sentiment qu'il a de la nature, dont vous constaterez quand même à chaque fois que c'est une nature très peu industrialisée.
Oui.
Très peu moderne. C'est une nature ancienne. C'est la barque, c'est le petit pêcheur. Hein. C'est pas le bateau à vapeur. Des bateaux à vapeur, il y en a plein à ce moment-là, à l'époque. Hein. C'est pas du tout les chemins de fer, etc. Ça, ça l'intéresse pas du tout. Au contraire, il veut fuir ça. Et il veut se réfugier dans ce reflet. Et si ce reflet n'est pas là, ce tableau serait tout à fait différent, évidemment. Du point de vue du propos, même philosophique, on pourrait dire.
Voici une lettre de Monet à Alice, c'est à Étretat en 1885. Il écrit « Après une matinée encore pluvieuse, j'étais content de voir le temps se remettre un peu. Bien qu'il souffle grand vent et que la mer soit furieuse, mais justement à cause de cela, je comptais faire une riche séance à la Manne-Porte. Mais il m'est arrivé un accident. Ne vous alarmez pas, je suis sain et sauf puisque je vous écris. Mais peu s'en est fallu que vous n'ayez de mes nouvelles et que je ne vous revoie pas. J'étais dans toute l'ardeur du travail, sous la falaise, bien à l'abri du vent, à la place où vous êtes venu avec moi. Convaincu que la mer baissait, je ne m'effrayais pas des vagues qui venaient mourir à quelques pas de moi. Bref, tout absorbé, je ne vois pas une énorme vague qui me flanque contre la falaise et je déboule dans l'écume avec tout mon matériel. Je me suis vue tout de suite perdue, car l'eau me tenait. Mais enfin, j'ai pu me sortir à quatre pattes. Mais dans quel état, bon Dieu ? Avec mes bottes, mes gros bas et la gâteuse mouillée, ma palette restée à la main m'était venue sur la figure et j'avais la barbe couverte de bleu, de jaune, etc. Mais enfin, l'émotion passée, ce n'est rien. Le pire est que j'ai perdu ma toile brisée bien vite, ainsi que mon chevalet, mon sac, etc. Impossible de rien repêcher. Du reste, c'était broyé par la mer, la gueuse, comme dit votre sœur. Enfin, je l'ai échappé belle, mais ce que j'ai ragé de me voir dans l'impossibilité de travailler une fois changée et de voir ma toile sur laquelle je comptais perdue. J'étais furieux. Étretat.
Là. Alors, Étretat, donc, Étretat, ça a été un moment crucial. Pour lui, parce que bon, comme tout le monde sait, il a énormément peint les falaises. Il faut savoir que il allait à droite, à gauche, en haut, en bas. Il montait au-dessus de la falaise.
Infatigable.
Vous avez des vues de cabanes de pêcheurs, qui était un ancien poste de douane, où pour la première fois, il utilise le surplomb. Ça, vous savez, par exemple, que c'est quelque chose de nouveau dans la peinture. Il a aussi utilisé ça en ville. Il a fait quelques vues, pas beaucoup, du jardin des Tuileries, pris du troisième étage d'un immeuble rue de Rivoli. Il a été le premier à faire ça, absolument le premier. Après, Caillebotte l'a fait beaucoup, etc. Et donc, il essaye tout. Et, cette vue du poste de douane, de la petite cabane de pêcheurs, est très émouvante, parce que quand vous le regardez, vous avez l'impression d'un personnage. C'est pas une maison, c'est un personnage. Et qui regarde presque apeuré l'océan en disant « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette immensité ?» Donc ça, je trouvais que c'était très, très touchant de voir ça. En tout cas, par une journée peut-être aussi mouvementée que l'un des tableaux qui est là, où on voit des pêcheurs qui sont restés sagement sur la rive, lui, il est allé en bas de la falaise, sur une petite plage, et toujours, donc il fallait qu'il s'approche de l'eau, toujours. Hein. Il fallait qu'il aille au plus près de l'eau. Et il a été emporté par une vague. Et il faut dire quand même qu'il a été, là, il a été quand même, ça a été un coup d'arrêt pour lui. Il est revenu après, il n'arrivait plus à Étretat. C'était Étretat, était fondamental, il a essayé de revenir, mais fondamentalement, Étretat, c'était fini pour lui. Il a vraiment cru qu'il allait mourir. Et son rapport avec la nature et avec l'eau en particulier, était à ce point d'affrontement physique qu'il a failli laisser sa peau quand même.
On va traverser les années et les salles. Une des périodes très importantes aussi, Vincent Noce, c'est la Creuse chez Monet. Donc, on est dans une salle de tableaux dominée par la Creuse.
Je pense que la période de bascule de la vie de Monet, c'est le voyage qu'il a fait, qui est assez peu connu finalement, dans la Creuse en 1889. Là, il s'attaque à un nouveau problème qui est celui du courant, parce qu'on a un torrent. Et donc ça, pour lui... L'eau, ce n'est pas seulement le reflet sur l'eau, c'est aussi le problème de la puissance, de la profondeur, des marais, du courant, etc., qu'à chaque fois, il essaye de résoudre. Et il souffre tellement des rhumatismes, il est obligé de couvrir ses mains dans le gel de vaseline et de mettre des gants par-dessus, nuit et jour, tellement il souffre. Quand il revient, il s'aperçoit qu'il ne peut plus peindre comme ça. Et c'est au même moment... qu'il commence à avoir une reconnaissance publique, et donc à vendre. Et à partir de ce moment-là, il va décider de se retirer. D'abord, il va essayer de répéter le même motif, au même endroit, jour après jour, matin, après-midi, soir, en jouant des effets de lumière. Donc il va faire les meules, les cathédrales, les séries. Bon. Quand il revient de la Creuse et qu'il a de l'argent... Il achète Giverny. C'est à partir de ce moment-là qu'il va se lancer dans autre chose. C'est-à-dire, au fond, pourquoi ne pas peindre la nature chez lui ? Une nature qu'il va théâtraliser, qu'il va faire son petit théâtre, il va faire son petit bassin, il va remettre en scène, sens de théâtre, une nature à sa main, une nature complètement domestiquée, on peut le dire, autour des nymphéas, qui sont des fleurs assez spéciales. Vous savez que les nymphéas éclosent le matin. Et puis à partir du milieu de journée, début de l'après-midi, elle se referme et elle rentre dans l'eau. Et au fond, d'ailleurs, on a d'une certaine façon une parabole de la création artistique, qui est, ou en particulier d'un artiste comme Monet, qui se remet constamment en cause. Donc tous les jours, il s'ouvre à la nature, et le soir, il se referme, il faut recommencer le lendemain. Donc il y a toujours un regard d'enfant qu'il a cherché à avoir, dans le sens du regard innocent, du regard pur, qui, évidemment, c'est un peu un mythe, mais sa recherche... dans la nature et avec la nature, il est constamment comme ça. Alors évidemment, il a exagéré cette légende. Il a dit « oui, moi je ne peins qu'à l'extérieur ». C'était tout à fait faux. Il a vraiment inventé. Évidemment, il travaillait beaucoup à l'intérieur aussi. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faisait énormément d'études et de premières ébauches à l'extérieur. Mais plus ça allait, plus il travaillait en atelier et plus il retravaillait ses toiles en atelier. Et donc là, il y a véritablement une recréation en atelier qui se fait en partie de mémoire et en partie à partir des études qu'il a faites.
Toute cette salle aussi avec le déjeuner sur l'herbe, même s'il n'y a pas d'eau, c'est extraordinaire.
Donc
aussi.
Là, on est dans une recherche qui est un peu différente, qui est celle de la figure humaine, si on veut, et aussi d'ailleurs du paysage, des reflets sur les robes blanches, les fleurs, le frémissement des fleurs, etc.
Et, l'instant. Bon,
l'instant aussi. Et le frémissement des fleurs, évidemment, il fait écho au frémissement sur le courant, hein, dans l'eau. Il y a au centre un tableau qui vient de Brême, d'Allemagne, qui est absolument extraordinaire, qui est Camille, donc sa jeune femme, hein, qui est décédé assez jeune, et qui, dans une robe verte, le traitement des étoffes est absolument merveilleux. Et là, si vous voulez, il y a des grands historiens de l'art qui ont regretté que Monet ait abandonné la figure humaine. Parce qu'au bout d'un moment, à partir des années 1900 en particulier, Monet a enlevé les figures humaines. Et même dans les paysages, si vous les regardez, les paysages, par exemple, face à l'océan, quand il met une figure humaine, ce n'est pas vraiment une figure humaine. Et en fait, en réalité, pourquoi ils sont là ? Ils sont là parce que c'est eux qui donnent la dimension de la falaise, la dimension de l'océan. Donc l'activité humaine, la figure humaine, comme peintre, je ne dis pas comme homme, c'était quelqu'un qui était assez adorable, qui était en famille, il était évidemment très pris par son travail, et passionné par son travail, mais c'était quelqu'un qui humainement était extrêmement touchant. C'était quelqu'un de gauche, qui avait défendu Dreyfus. Il n'était pas très engagé politiquement, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sympathie humaine. Mais la sympathie humaine n'existe pas dans sa peinture. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le paysage et notamment l'eau.
Il y a le portrait de Camille, justement, sur son lit de mort aussi.
Alors, il y a, à la fin de cette salle, sur les portraits, si on veut, sur les portraits en pied, les portraits de groupe, etc., il y a le portrait de Camille sur son lit de mort. Alors, évidemment, c'est un moment intense, exceptionnel. Il se met devant son lit de mort et il ne peut pas s'empêcher. Il peint des choses qui sont à mi-chemin entre l'étude, d'ailleurs, l'ébauche, si on veut, l'esquisse, et le tableau fini. Et c'est un blanc vaporeux, le visage est déjà parti, c'est déjà un esprit. Évidemment, c'est extrêmement émouvant. Il a été très affecté par la mort de ses deux épouses. Bon, au moment où Camille est morte, il faut dire qu'elle était déjà un peu remplacée. Mais quand Alice, qui était sa maîtresse à l'époque déjà, et qui est devenue sa femme ensuite est morte, il a arrêté de peindre pendant des années. Donc la mort, il y a des psychanalystes qui disent que sa fascination pour l'eau vient de la mort des femmes, c'est-à-dire la mort de sa mère évidemment, la mort de Camille, la mort d'Alice, et qu'il est là à regarder l'eau, et que dans l'eau ce qu'il cherche, c'est le regard des femmes qu'il a aimées. Ce qui après tout, oui, peut se défendre aussi.
On sent d'ailleurs qu'on est assez proche déjà des nymphéas dans ce tableau de Camille, avec l'ovale aussi du visage qui pourrait être.
Alors c'est toujours une fleur. C'est toujours pareil. Il y a un moment donné, il adopte ce que certains à l'époque n'ont pas compris, qui est un dépassement de l'impressionnisme, qui est une méthode vaporeuse.
Oui.
Évidemment, la vapeur, ça renvoie aux gouttelettes d'eau. Et on le voit sur ce portrait extrêmement émouvant de Camille sur son lit de mort, mais on le voit par exemple par rapport aux cathédrales. Tout le monde connaît les cathédrales de Rouen. Eh bien, les cathédrales de Rouen, elles sont toutes brouillées. Elles sont brouillées parce qu'il fait comme s'il y avait une espèce de vapeur qui le distanciait du monument. C'est une manière pour lui de se séparer d'une certaine façon du monument, de prendre ses distances.
Donc après, il est allé à Londres aussi, là aussi, avec ses effets de brouillard.
Là, c'est intéressant parce que c'est la seule ville où il est allé trois années de suite pour recommencer toujours à travailler sur le fleuve et sur le brouillard, évidemment, parce que Londres, c'est la capitale du brouillard. Et de nouveau, il joue sur les reflets de façon extraordinaire. De nouveau, il n'y a pas du tout l'industrialisation à ce moment-là. Londres est la capitale mondiale de l'industrialisation. Ça, c'est pas du tout présent, ça l'intéresse pas du tout. Et sur certains ponts ferroviaires, il y a quand même des locomotives. La locomotive, vous la voyez pas du tout. Ce que vous voyez, c'est les nuages de vapeur qu'elle dégage. Donc c'est l'idée même de la locomotive qui est suggérée. Et on voit bien combien ce qui le travaille, c'est le reflet, ce reflet doré. Et ce qui est extraordinaire dans certains de ses tableaux, c'est qu'il y a un effet de la puissance du fleuve. Et comme dans d'autres tableaux qu'il a travaillé des marines, on sait, ou on voit, ou on sent que la marée monte ou descend, par exemple. Vous voyez l'extrême sensibilité qu'il montre par rapport à tous ces phénomènes.
On pense à Turner aussi.
Alors, évidemment, on pense à Turner quand on voit ces tableaux. Là encore, on voit que plus ça va, plus il estompe la réalité, et on arrive jusqu'à un tableau d'Ottawa qui n'est quasiment qu'un nuage de fumée, quoi. hein, avec un nuage de vapeur, avec de l'eau, tout ça s'est complètement mélangé. Parfois, dans un tableau qui est à marmottant, on distingue à peine que c'est un pont. On se demande si ce n'est pas des arbres. Hein. Si on ne sait pas que c'est un pont, on pense que c'est des arbres. Tellement tout ça est devenu flou et ça sera très peu compris. Quand c'est exposé, les gens disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où est-ce qu'il est, notre Monet ?» Déjà, il nous a choqués quand il était impressionniste, et maintenant, où est-ce qu'il est ? Et en fait, Monet était déjà parti dans son rêve. Mmh. C'est ça que finalement, il cherche un peu partout. Et après tout, il a raison. Il se dit « pourquoi pas rentrer à la maison ? Parce que le rêve, je vais le trouver aussi bien à la maison. »
Carnet nomade, Claude Monet ou L'œil de l'eau, suite sur France Culture. Retour dans les jardins de Giverny.
Il y a des endroits qui ont des couleurs particulières, des endroits bleus, des rouges.
Alors Monet avait organisé son jardin, effectivement, par plate-bande et par couleur, c'est-à-dire les lumières plus froides au nord du jardin, dans la partie haute, et les couleurs un peu plus chaudes, donc le jaune, l'orange en bas, et aussi d'est en ouest, donc un dégradé de rouge-orange au lever du soleil, avec une similitude sur le coucher du soleil aussi. Voilà, donc il y a tout un jeu subtil entre les différentes plates-bandes avec des dégradés de couleurs pour accompagner la suite ou celle qui est à côté.
Et j'aime beaucoup aussi tous ces saules pleureurs qui donnent une douceur au jardin.
Alors les arbres effectivement permettent des parties ombragées et lumineuses dans le jardin. Il y a plusieurs variétés de... Ça va du hêtre pourpre, des liquides en barre aussi sont très jolis. Ça va du jaune, vert, orange, rouge foncé. Il y a quelques frênes, pas mal d'arbustes aussi qui amènent des colorations ponctuelles. Ça ne dure pas très longtemps, mais voilà, c'est l'automne.
C'est une chance de travailler ici, non ?
Oh, bien sûr, c'est l'aboutissement pour un jardinier, je pense, de pouvoir travailler dans un cadre pareil. C'est vraiment un petit écrin.
On dit d'ailleurs que Monet était mania qui ramassait toutes les feuilles mortes. Il voulait toujours que ce soit impeccable, que ce soit presque une toile déjà, son jardin.
Alors, c'était un jardinier. C'est ce qui fait l'originalité du personnage, je pense. C'est que c'était un peintre, mais aussi un jardinier. Donc ce qui en fait quelqu'un d'unique un peu dans ce milieu de la peinture. Et il a été plus connu comme peintre que comme jardinier, mais nous, on se sent assez proche de lui, effectivement. Oui. Nous ne sommes pas peintres, seulement jardiniers. Et voilà, on essaye de retrouver l'ambiance ou ce qui l'a motivé pour faire ça. Mm. Hein. Et c'est vrai que c'est très complet. Il a amené un mélange de plantes. Enfin, c'était vraiment... On a une palette et un panel de plantes et de couleurs vraiment unique, je pense.
Mm. Oui, donc sa présence est là aussi dans vos gestes, parfois.
Bien sûr, on essaye de... En fait, comme disait Yves, on se sert d'une palette de couleurs avec nos fleurs pour essayer de recréer un peu l'ambiance de ces peintures. Donc on essaye de garder vraiment l'esprit de Monet, de la peinture de Monet.
Pierre Vatte, que vous avez eu vraiment du plaisir à faire revivre à la fois la maison de Monet à Giverny et lui-même, le personnage de Monet vieillissant dans Giverny et essayant de tisser presque sa légende à tous ceux qui venaient, qui faisaient presque le pèlerinage à un moment. On venait voir à Giverny, on essayait de venir rencontrer Claude Monet.
Oui, il y avait effectivement, je suis parti du dernier Monet. Le livre avait failli s'appeler Portrait de l'artiste dans son dernier paysage initialement. Et c'est aussi ce que cet ouvrage raconte, c'est-à-dire c'est un Monet des années 20, très âgé, presque aveugle, qui est à Giverny, qui est devenu une sorte de gloire légendaire, qui participe à sa propre légende et que les gens tentent d'approcher. Et le roman, la trame romanesque, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut voir Monet pour des raisons multiple et qui officiellement veut voir Monet pour écrire un article sur lui. C'est un journaliste d'origine polonaise qui, pour une revue moderniste polonaise, veut faire un témoignage sur Monet à la suite d'autres gens. Mais c'est vrai que Giverny, je l'ai considéré à la fois comme un lieu, bien sûr, comme une œuvre d'art, parce que Giverny, c'est une œuvre de Claude Monet, et c'est pas n'importe quelle œuvre de Claude Monet. D'abord parce que c'est son jardin, et que c'est un homme qui disait qu'il n'aimait que la peinture et les fleurs, hein, parce que les fleurs sont gentilles, disait-il, ce qui est quand même tout à fait étonnant, comme phrase de la part d'un peintre, mais que c'est aussi un lieu qui est une sorte de concentré de toute sa vie et de toute son œuvre. C'est une sorte d'œuvre totale, d'une certaine manière. Et pour moi, Giverny, je l'ai aussi considéré dans ce roman comme un personnage. Mmh. C'est un personnage à part entière. On est chez Monet, enfin, on est avec Monet et on est avec Giverny. Et les deux sont complètement liés.
Il est vrai que pour Monet, cette maison et ce jardin, c'était presque aussi des doubles pour lui.
Oui, c'est-à-dire que Monet n'a pas... Enfin, il a à la fois trouvé Giverny et ensuite il a réinventé complètement Giverny. Mmh. C'est-à-dire qu'il a trouvé un lieu qui était d'une certaine manière sa destinée à partir du moment d'ailleurs où il arrive à Giverny, il ne va presque plus voyager et il va passer finalement les 35 dernières années de sa vie à sculpter ce lieu à son image. Et il y a un phénomène de réversibilité très fort à Giverny entre l'intérieur et l'extérieur, entre les ateliers et le jardin, avec ce qu'est fondamental chez Monet, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est totalement obsessionnel dans le fond. Hein. Quand il a fait entièrement créer donc, le bassin des nymphéas, modifier un cours d'eau, détourner l'eau, élargir, son jardinier, il avait un jardinier dont la tâche principale, si ce n'est unique, c'était tous les jours d'enlever les feuilles qui tombaient sur le bassin des nymphéas. Parce que comme une sorte d'altération de l'œuvre. Donc, voilà. Nous sommes à Giverny, nous ne sommes pas devant une œuvre de Monet, nous sommes à l'intérieur d'une œuvre de Monet. Et je crois que ça dit quelque chose sur l'évolution du travail de Monet. C'est-à-dire, ce que cherche Monet, c'est pas à être devant le motif obsessionnellement, c'est à être à l'intérieur du motif. Et les nymphéas, c'est le double pictural de l'installation même du jardin. On est à l'intérieur d'eux.
Et vous citez les nymphéas, il y a ce tableau aussi de Camille morte qui est vraiment extraordinaire. Vous avez d'ailleurs montré qu'à côté de ce tableau, on pourrait mettre un fragment des nymphéas et que c'est presque la même chose.
Ça, c'est un événement, à mon avis, fondateur dans l'œuvre de Monet. On le voit bien dans l'exposition où ça arrive comme une fin de séquence sur le portrait avant d'arriver au grand décor. C'est le portrait, donc c'est Camille sur son lit de mort, c'est sa première femme, Camille, qui est morte de maladie, assez jeune, en plus dans un contexte hivernal, il va faire des tableaux extraordinaires, c'est à Vétheuil que ça se passe, une série qui s'appelle La Débâcle, hein, sur le gel de la Seine, et il peint sa femme morte. Il peint sa femme morte, et ce tableau, pour lui, sera toujours comme une forme de remords. Il va le garder dans son atelier toute sa vie, il ne va pas vouloir le montrer, pas vouloir l'exposer, pas vouloir le vendre. Et quand on regarde le tableau, la première fois que j'ai vu ce tableau, j'étais stupéfait parce que je me suis dit, mais si vous le regardez de loin, vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est une meule effet de neige ou un fragment de nymphéa, il y a une série reflets de saules. Et on les met les uns à côté des autres. Il y a 40 ans d'écart, c'est absolument la même chose. Et Monet a écrit une lettre totalement bouleversante à Clémenceau, dans laquelle il explique qu'il a peint cette femme qu'il aimait, qui était morte, et qu'au bout d'un moment, il s'est laissé complètement entraîner par ce motif, et qui tout à coup il a vu un bleu, il a vu un violet, et il s'est mis à peindre, et qu'il a oublié ce qu'il était en train de peindre. Et il dit cette phrase extraordinaire, il se définit comme peintre en disant « je suis comme un animal enchaîné à sa meule ». La métaphore est explicite vraiment dans tous les aspects de la vie de Monet, c'est-à-dire quelqu'un... Monet, c'est un fou de peinture. Ça peut paraître un cliché, mais c'est véritablement un fou de peinture. C'est un obsessionnel. Ce que j'ai découvert en travaillant, et ce qui a porté pour moi le livre, c'est de découvrir un homme dans son paysage, un homme qui finalement, à la Renaissance, on aurait dit que c'est un peintre saturnien. C'est-à-dire que finalement, c'est un obsessionnel mélancolique. Les couleurs viennent me poursuivre la nuit. Voilà. Et qui dit également, ah, si j'avais pu me contenter du possible.
Et ce personnage, d'ailleurs, qui vient le voir à Giverny, ne parle pas beaucoup, il l'écoute en fait au début.
Oui, ce personnage est un témoin intimidé. Donc il vient, au début on se demande un petit peu pourquoi il est là. Enfin, il écoute, et il y a une scène comme ça de très long dialogue dans la cuisine, qui est en fait une sorte de monologue de Monet, dans lequel ce jeune homme n'ose absolument pas l'interrompre. Mais on se rend compte dans la progression dramatique de l'ouvrage, que en fait c'est une visite qui a pour lui un caractère initiatique, et qui est mue par des motivations extrêmement personnelles. Puisqu'il vient voir Monet à la fois parce qu'il dit « Voilà, moi je suis d'origine polonaise, je travaille pour une revue polonaise. Pour nous les Polonais, vous êtes la France. Monet, vous êtes la France, vous êtes le paysage français. » Et puis aussi, Monet, c'est quand même cet homme qui a offert le 12 novembre 1918 les Nymphéas à la France par l'entremise de son ami Clémenceau.
Oui, c'est un vrai geste républicain.
C'est un geste profondément républicain, mais quel rapport est-ce que cette peinture de paysage entretient avec l'histoire, avec un grand H, et l'histoire dans ce qu'elle a de plus terrible? Quel rapport y a-t-il entre les Nymphéas et la tranchée? Fondamentalement, c'est l'interrogation de l'ouvrage. Et alors, il vient pour ça, et puis il vient parce qu'il raconte dans sa lettre à Monet. Monet a séjourné en Norvège en 1895, si ma mémoire est bonne, et il lui dit « Voilà, mon père, à un moment, était en Norvège, et il vous y a rencontré, et il nous a parlé, toute notre enfance, on a entendu parler de vous, vous étiez l'oncle d'Amérique, hein, ou le Saint-Nicolas, comme il le dit. Voilà, vous étiez l'homme dont on nous disait tout le temps, Monet a dit, Monet a fait, Monet disait que. » Donc c'est aussi un personnage de son enfance qu'il vient essayer de trouver là, pour essayer lui-même, d'une certaine manière, d'accomplir son initiation artistique.
Et quand il est en Norvège, d'ailleurs, ça, il a des intuitions du Japon, comme si c'était comme si le Japon était là. Et quand on est à Giverny, il y a cette fabuleuse collection aussi d'estampes japonaises. C'est très intéressant de voir le lien entre ces estampes et la peinture de Monet.
Oui, Monet est un fou d'estampes japonaises, c'est un grand collectionneur. Il a été jusqu'en Hollande pour trouver les meilleures estampes. Il est très expert. Il a des relations avec des gens au Japon, d'ailleurs, y compris pour des raisons de botanique. Il se fait envoyer des graines de différentes plantes japonaises pour les planter dans son jardin. Et il est évident que cette estampe japonaise va féconder son travail. Mais ça a fécondé son travail d'une manière très très particulière. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas un seul tableau de Monet dont vous puissiez dire qu'il reprend de manière, comme sous forme de citation. Lui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel. Et effectivement, ce que vous dites sur la Norvège, il le raconte, Monet, il est en Norvège, il est en train de peindre un mont norvégien, et il dit c'était comme le mont Fuji, qu'il n'a évidemment jamais vu, si ce n'est à travers les estampes japonaises. Donc c'est quelque chose de plus spirituel et qui touche aussi à la façon dont Monet, à mon avis, conçoit l'espace, dans le rapport du plein et du vide, qui est un rapport finalement qui est très imprégné d'une esthétique japonisante et que l'on retrouve complètement dans son jardin, avec son fameux pont japonais. Mmh. Alors, tout le paradoxe de Monet, il est là. Le pont japonais, il est peint à Giverny, il est peint en vert, comme les volets de la maison sont peints en vert, comme un certain nombre de motifs sont peints en vert. C'est évidemment le contraire de ce qu'on fait au Japon. C'est-à-dire que c'est la façon Monet de faire du japonisme. Oui. C'est un japonisme d'appropriation, complètement digéré par lui pour créer son propre lieu flottant.
Et c'est aussi dans votre roman, je ne sais pas si on peut appeler ça un roman, si c'est quand même un rêve presque.
Absolument.
Une rêverie.
Une rêverie, très exactement.
Et c'est à la fin, on voit pourquoi aussi cet homme est allé le voir. Il retrouve des lettres de son grand-père.
Oui, c'est un homme qui, en fait, ce Stefan Bergholz, dont le nom est donc un nom juif polonais, est l'homme qui m'a permis d'amener dans le jardin de Giverny quelque chose de l'histoire dans sa version tragique, par un phénomène de transposition d'événements qui, moi, m'habitent pour des raisons biographiques et qui sont beaucoup plus tardives, totalement anachroniques, qui viennent de la déportation d'un certain nombre de gens, ce qu'on appelle la relégation d'un certain nombre de gens, enfin de centaines de milliers de gens en l'occurrence, de ce qu'on appelle la steppe de la faim en Asie centrale par les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai, dans un geste anachronique volontaire, j'ai transposé ça dans une Russie tsariste de la fin du siècle. Et ce jeune homme porte cette histoire avec lui, puisqu'il a toujours vu son grand-père, qui revenait, dont il savait qu'il revenait de cette steppe-là, être hanté par cette grande histoire et avoir un rapport à son propre paysage polonais complètement nourri d'un rapport très douloureux avec cette steppe dont il a une image comme une sorte de steppe aride, la steppe aride venant comme une sorte de contrepoint du Giverny complètement fleuri. Donc ce jeune homme ramène la grande histoire. Mais pour moi, ça se concentre dans une scène où à un moment, le jeune homme est là, il est un peu à l'écart parce que Monet a des visiteurs. Et il les voit de loin, les visiteurs, il voit un groupe. Et en fait, dans ce groupe, il y a Georges Clémenceau, qui est un ami très très proche de Monet, comme on sait. Et il voit Clémenceau, puis Clémenceau disparaît vers Monet. Et il dit que c'est vraiment l'hommage de l'histoire au paysage, que l'histoire rend au paysage en s'éclipsant derrière elle. Et c'est pour ça que j'ai voulu ramener cette histoire tragique, parce qu'il me semble précisément que dans la peinture de Monet, caché en dessous, il y a toujours la grande histoire. Tout ça, c'est parti du fait que pour écrire ce livre, j'ai été revoir les nymphéas à l'orangerie, que je n'avais pas vu depuis mon enfance, et j'ai eu un choc. Enfin, on dirait vraiment que j'ai pris une baffe phénoménale. Et surtout, ce qui m'a fasciné en regardant ces œuvres, c'est que j'ai eu la sensation que j'étais dans une sorte de mausolée, de tombeau, hein, véritablement. Pas que ce soit morbide, mais c'est absolument pas l'idée que je me fais de l'impressionnisme lumineux, joyeux, mais pour moi, c'est pas une œuvre qui représente un bassin, c'est une œuvre qui représente toute la temporalité. C'est comme si toute la temporalité de la vie de Monet venait se concentrer en strates dans un même espace, que cet espace extrêmement flottant. C'est une sorte de tombeau du temps pour moi, les nymphéas. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce livre.
Oui, c'est enfermé avec passion, en fait, à Giverny.
Oui, c'est pour ça que quand je parlais de tombeau, d'une certaine manière, Giverny, c'est ça. D'ailleurs, je le raconte dans le livre, et c'est ce qu'il montre. C'est la dernière chose que Monet montre à Stéphane Bergholz. À la fin, une fois qu'il lui a montré les nymphéas, il l'emmène dans sa chambre. Et dans sa chambre, il lui dit, voilà, regardez, ils sont tous là. Et qu'est-ce qui est là dans sa chambre? C'est ce qui est maintenant au musée Marmottan. C'est sa collection, c'est-à-dire tous les tableaux de ses amis, il les conserve dans sa chambre. Bon, c'est pas une tombe égyptienne, mais il y a quelque chose chez cet homme-là qui est évidemment un rapport obsessionnel au temps, mais profondément hanté par cette question-là, ça c'est certain, et par cette sorte d'enchaînement. Enfin, quand il dit « je suis comme un animal enchaîné à sa meule », enfin, il aurait aussi pu dire qu'on ne se baignait pas deux fois dans le même fleuve, hein, à la Héraclite, c'est-à-dire qu'il s'est fixé comme quête de saisir ce qui échappe forcément.
Intéressant aussi, Vincent Noce, de passer de la réalité du jardin de Giverny en cette saison, avec les saules pleureurs aussi, et la petite rivière, la rue,
et le pont japonais,
qui
va quand même avec le fait que Monet s'est intéressé à l'estampe japonaise, dans lesquelles d'ailleurs la pluie, par exemple, le brouillard, sont des constantes. Hein. Y a des vagues qu'il crée, par exemple, à Belle-Île, qui sont très dessinées et qui ressemblent vraiment à des estampes japonaises. Donc, et dans son atelier, on sait que dans l'escalier, il avait mis des estampes japonaises. Donc le pont japonais, c'est pas un hasard non plus, évidemment. Alors, évidemment, là, on se rend compte, quand on est face au tableau, par rapport à la réalité, quand on a eu le plaisir de la visite à Giverny, qu'on est dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire, là, la réalité est vraiment partie, quoi. Et alors évidemment, ce vers quoi se termine l'exposition, ce qu'on peut voir à Giverny en vrai, ce qu'on peut voir à l'orangerie dans les grands panneaux qu'il a offerts à l'État, les 20 dernières années de sa vie sont complètement consacrées à l'étude des nymphéas, du bassin de nymphéas. Et là, l'eau envahit tous ces tableaux. Et il peint des nymphéas. Alors il faut savoir qu'il a peint énormément d'abord d'autres grands panneaux, moyens ou plus petits, et puis il a peint des dizaines et des dizaines et des dizaines de petits tableaux d'études sur lesquels il essayait quand même de revenir constamment là-dessus. Et c'est des tableaux qui retravaillaient énormément. C'est pour ça aussi qu'il faut être prudent sur la thèse de l'impact de la cataracte, parce qu'on ne sait pas à quel moment il a peint tel ou tel tableau.
Mais surtout une recherche de style et de ton, enfin de, d'être au plus près de lui, de sa vision.
C'est une recherche de style, il y a un débat parmi les historiens d'art, mais moi je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui annonce l'abstraction dans ses œuvres, absolument. Il y a, c'est-à-dire une espèce de d'entrée vraiment complète d'une poésie qui ne peut se lire que dans ce regard qu'il a sur l'eau, et qui est une eau souvent sombre, donc pleine de mystère. Il y a vraiment une autre dimension qu'il parvient à créer. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est quand vous regardez ces nymphéas qui flottent dessus, on a l'impression qu'ils flottent sur l'air. On a l'impression que c'est des soucoupes volantes. Ils ne sont pas vraiment posés sur l'eau. Et il y a un effet comme ça, de rêve, de couleur, qui devient absolument fascinant. Et je pense que le but, c'est ça. Pourquoi il fait les grands panneaux qui sont maintenant à l'orangerie ? Parce que ça se voit comme un ensemble, et c'est un ensemble qui est hypnotique. Comme un peu quand vous, peut-être à l'époque, on prenait de l'opium, ou aujourd'hui on fumerait pour partir dans un rêve. Et ben, lui, il propose, par l'art, de retrouver cette nature qu'il aimait tant dans son rêve. Et on le rejoint dans son rêve, qui est un rêve purement aquatique. Ce sont des paysages d'eau. Ce ne sont pas des...
Il s'est laissé hypnotiser.
Lui, il s'est laissé absolument hypnotiser. Et donc tous les jours, sa journée était organisée autour de ça. Donc le matin, il se levait toujours très tôt. Il allait au bord de son... Il faisait ses études. Et s'il voulait bien recevoir des gens, il était en général assez grognon et assez ours. Mais il voulait bien le faire l'après-midi, parce qu'à ce moment-là, les nymphéas, de toute façon, étaient refermées. Donc il ne pouvait pas peindre. Donc on voit bien qu'il est complètement... Il reste complètement obsédé par ça. Et effectivement, dans une certaine forme quand même de solitude, qui est la noblesse d'un artiste qui a été extrêmement intransigeant, qui n'a jamais voulu faire de concessions. C'est pour ça qu'il a été le chef de file des artistes radicaux de l'époque, qui étaient les impressionnistes. Et donc, finalement, il s'abîme dans son œuvre, il s'abîme dans l'eau, mais il offre ça quand même à la nation au moment, en 1918, au moment où la paix est signée. Et donc, si vous voulez, il y a aussi un geste extrêmement humain là-dedans.
Ce carnet nomade, et je vous conseille d'aller voir la très belle exposition donc au Grand Palais Claude Monet 1840-1926. C'est jusqu'au 24 janvier et le catalogue de l'exposition est publié aux éditions RMN Musée d'Orsay. Merci à vous Vincent Nosse pour nous avoir guidés dans cette exposition. Je rappelle que votre livre Monet, l'œil et l'eau est publié aux éditions L'Inattendu et aux éditions RMN. À Giverny, merci aux deux jardiniers Yves Gouache et Jean-Marie Avizard. Merci à Pierre Vatt, son roman Les Nymphéas la nuit est paru aux nouvelles éditions Scala dans la collection Ateliers imaginaires. Quelques livres à signaler, de Pascal Bonafou, Monet, peintre de l'eau, c'est aux éditions du Chêne. Le catalogue aussi de Claude Monet à Giverny, La visite et la mémoire des lieux, de Claire Joie, aux éditions Claude Monet Giverny. Trois albums également à signaler, L'herbier fantastique d'Irénée Cornelius, recherche sur la botanique étrange et néanmoins véritable. C'est aux éditions Plume de Carotte, de Catherine Chevillot et Anne Pinjot, l'album Degas Sculpteur chez Gallimard, et enfin le très bel album Mythologie de Roland Barthes au Seuil, avec l'intégralité du texte de Barthes et près de 200 illustrations en couleur et en noir et blanc. Carnet Nomade, Daphné Abgral à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellous, rendez-vous dimanche prochain à 14h où nous serons à Essaouira pour le Festival des Andalousies Atlantiques. Très bon dimanche à tous!